Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Dynasty.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Vous suivez sans doute la série de la chaîne américaine CW, diffusée en France sur Netflix, Dynasty. Dans la droite ligne des séries comme Riverdale, Pretty Little Liars, etc., il est question de mensonges, de trahison, d'opportunisme, de rivalité, de jalousie, de sexe, de coucherie, de bagarre, de coups de théâtre. Bref, ça c'est un super programme. Les personnages sont imprévisibles, ils changent de veste, d'attitude, de camp, de stratégie, mais le grand secret de Dynasty, sa fondation, c'est que c'est une série centrée sur la famille et les relations entre les personnages. C'est là où la série excelle. Bon, c'est pas moi qui le dis, ça. Ce sont les créateurs de la série, Richard et Esther Shapiro. Et ils ont eu presque 10 ans pour confirmer cela, pour confirmer leur concept. Les Carrington peuvent se trahir, s'opposer, se jouer les uns des autres, mais c'est la famille avant tout. Mais Dynasty en est à sa deuxième saison. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de 10 ans ? Parce que Dynasty n'est ni plus ni moins qu'un reboot. C'est le remake d'une ancienne série qui n'est carrément plus très visible de nos jours. Elle est même plus diffusée. Il y a une intégrale DVD qui existe, mais elle n'est pas donnée, hein, je vais vous le dire. Et comme la version de Netflix est principalement destinée au public jeune, peu d'entre vous ont vu l'original dans les années 80, à une époque où peut-être vous n'étiez pas né. Le reboot de Dynasty se déroule à Atlanta, sur fond d'entreprise énergétique. Elle a pour vedette Grant Shaw, qu'on avait vu auparavant dans Melrose Place. C'est lui qui tient le rôle du patriarche Blaine Carrington. Et Nathalie Kelly dans le rôle de sa nouvelle femme avec qui il travaillait au sein de sa société, Crystal. En saison 2, Anna Brenda Courtras sera la vraie Crystal, parce que la précédente, en fait, c'était une usurpatrice. Fallon, la fille impétueuse et capricieuse de Blake, est incarnée par Elizabeth Gillis. Et son fils idéaliste, Steven, est interprété par James McKay. Il se mariera d'ailleurs avec Sammy Jo, interprété par Raphaël de la Fuente. Jeff Colby, un personnage torturé et incontrôlable, le représentant des Colby, les ennemis d'affaires des Carrington, c'est Sam Adekok. Et dans le dernier tiers de la première saison arrive Nicolette Sheridan. Ouais, l'actrice de Côte Ouest, et celle qui fut Eddie Bree dans Desperate Housewives, et qui continue d'être en procès et d'accuser le créateur de la série de l'avoir viré en représailles. Je vous raconte tout ça en détail dans le Previously consacré à Desperate Housewives d'ailleurs. Et bon, c'est une histoire complètement abracadabrantesque. Mais bon, Nicolette Sheridan, donc, débarque chez les Carrington dans le rôle de Alexis, l'ex de Blake. À la direction de la série, des habitués de ce genre de série feuilleton, Sally Patrick de Revenge, Josh Schwartz qui dirigea Gossip Girl avec Stephanie Savage. Et à leur côté, les créateurs donc de la série d'origine, Richard et Esther Shapiro. Mais comme vous allez le constater, si la série accumule les rebondissements, les révélations, les retournements de situation à une vitesse proprement hallucinante, quelquefois même en 2-3 scènes au détour d'une phrase de dialogue, souvent un peu au détriment du semblant même de cohérence, mais bon, les situations et les personnages viennent directement de la série d'origine. Mais avant de vous présenter les autres Carrington, ceux donc de Denver et des années 80, pour comprendre la raison du succès quasi légendaire de Dynasty, pourquoi c'est une série culte, il nous faut commencer par un effet de mode médiatique, un autre que celui des reboots, celui des soaps de soirée. En 1978, alors que les séries du moment sont plutôt Drôle de Dame, Happy Days ou L'Incroyable Hulk, la chaîne CBS lance une version contemporaine, à peine voilée, de Roméo et Juliette. Bobby Roméo Ewing est amoureux de Pamela Juliette Barnes. Mais les deux familles sont rivales depuis des années dans le milieu du pétrole. La série s'appelle Dallas. Elle démarre plutôt timidement avec 5 petits épisodes. Elle se terminera d'ailleurs 43e dans les audiences de la saison. Mais en reproduisant les éléments romanesques et mélodramatiques des habituels soap-opéras de l'après-midi, genre Les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté, Dallas s'impose graduellement dans les audiences, ose faire feuilletonner l'histoire chaque semaine, à suivre, ce que évidemment les autres séries de prime time ne faisaient jamais. On n'avait guère connu que Peyton Place lors de la décennie précédente pour proposer aux spectateurs de suivre chaque semaine les émois amoureux à suivre au fil des épisodes de Mia Farrow et de Ryan O'Neill. En osant jouer la même carte et grâce à un personnage secondaire, J.R., un businessman sans scrupules qui va jouer les opposants et comploter de façon machiavélique pour séparer Bobby et Pamela et remporter donc le pouvoir au sein de la Ewing Hall, Dallas finit par faire un carton, se hisse en tête des audiences. Mieux, la série devient le nouveau phénomène dont tout le monde parle. Et les projets de séries similaires commencent à affluer sur le petit écran. King's Crossing, Les Secrets de Midland Heights, Flamingo Road, Les Hamptons, Barry Sands qui se déroulait dans le milieu de l'industrie du parfum, Falcon Crest qui lui se déroulait dans une entreprise vinicole, Paper Dolls dans le monde de la mode, bref, une avalanche de ce que l'on appelait les prime time soaps. Les soaps de soirée. Et le meilleur restera d'ailleurs Côte Ouest, Notts Landing, des années durant. Et de cette mode du soap de prime time, Dynasty en a été le prince. Un prince un peu défroqué quand même, mais un prince. Surpris par les presque 35 millions de téléspectateurs que Dallas leur confisque chaque vendredi soir, le network concurrent ABC panique un peu. Il va demander à leur producteur fétiche de leur faire quelque chose dans le même genre, quoi, pour concurrencer Dallas. Le producteur fétiche en question, c'est Aaron Spelling. Oui, c'est le père de Tori Spelling, qui s'illustra des années plus tard dans Beverly Hills, la série de son papa. Aaron Spelling, c'est un poème à lui tout seul, un producteur qui avait un tel succès et un tel charisme qu'il alignait les succès comme La Croisière s'amuse, L'Île fantastique, La Nouvelle Équipe, Starsky Hutch, Hooker, Hôtel, Matthew Stone, L'Amour du risque, Les Drôles de Dames. Il découvrait des talents comme Farrah Fawcett, tout en remettant les gloires passées en vedette, en invité prestigieuse de ses séries. Il était tellement prolifique qu'il produisait à lui tout seul un tiers des séries de la chaîne ABC. Et malicieusement, on l'avait renommé non plus American Broadcasting Company pour ABC, mais Aaron Broadcasting Company. Pas étonnant qu'en période de crise, on lui demande de vite, 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 faites-nous du Dallas. Une saga feuilletonnante avec des familles très, très riches qui s'opposent, des personnages hauts en couleur. Mais comme Aaron n'est pas un homme à faire les choses à moitié, il va reprendre ces ingrédients-là et il va pousser les curseurs le plus loin possible dans l'opulence, l'ostentatoire et la démesure. La nouvelle série de Aaron Spelling repose, elle aussi, sur une entreprise qui s'occupe de pétrole comme Ewing Hall. Mais là, c'est la Denver Carrington. À Denver, donc, dans une maison beaucoup plus grande que celle des Ewing. Une maison de 48 pièces, avec beaucoup plus de bijoux, de robes, de costumes et de grosses limousines que dans Dallas. L'alliance de Christelle, par exemple, lors de son mariage avec Blake dans le tout premier épisode, elle était obligatoirement gigantesque, elle faisait 25 carats. Bon, c'est une fausse, mais enfin quand même. Venant d'un milieu populaire né d'une famille d'immigrés, Aaron Spelling était persuadé que le public ne voulait en rien voir tout cela à la télé. Ce que les gens voulaient voir, pour lui, c'était de belles personnes dans de beaux environnements. Mais il était aussi très libéral et insufflait dans certaines de ses séries des idées qui bousculaient les convenances et les tabous. La série que Richard et Esther Shapiro vont donc imaginer pour lui s'appelle « Oil », pétrole. La famille au centre de la série s'appelle les Parkhurst et on changera vite cela pour les Carrington. Le pilote est tourné en avril 1980 avec comme vedette dans le rôle du patriarche Blake Carrington, George Peppard. Et oui, l'acteur suave et élégant de Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn et du Crépuscule des Aigles était en mal de rôle et vivait une traversée du désert depuis la série Banatsek et Doctor's Hospital qui n'avait pas duré très longtemps. Sauf que une fois le pilote tourné, l'air très détaché de Peppard et sa façon, alors comment vous le dire, un peu arrogante de se comporter avec les autres acteurs, entraînèrent son renvoi du projet. Le pilote, très coûteux, passe donc à la poubelle et un nouveau tournage se déroule quelques 6 mois plus tard. George Peppard, lui, ira noyer son chagrin et deviendra le héros de l'agence touristique. Cette fois-ci, le pilote de Dynasty est en boîte, validé, et la série est lancée aux États-Unis à grand renfort de publicité en janvier 1981. Entre-temps, la série a été débaptisée. Elle ne s'appelle plus Oil, mais Dynasty. Et pour faire un événement, le premier épisode fait 3 heures, toute la soirée donc, et commence avec un thème musical mythique qui est dû à Bill Conti, un thème qui va marquer tout le monde. Conti, il aura composé la splendide musique orchestrale d'une autre série, une mini-série de prestige, Nord et Sud. Ce sont quelques-uns des morceaux que vous entendrez dans ce podcast. C'est le vétéran d'Hollywood John Forsythe qui devient maintenant Blake Carrington, le richissime milliardaire, patron de la Denver Carrington. Forsythe est un grand acteur qui a joué pour Alfred Hitchcock et pour Richard Brooks, entre autres. C'est un des fondateurs du prestigieux acteur Actor Studio. Il a enseigné la comédie à Marlon Brando, Montgomery Clift. Il a même eu parmi ses élèves une certaine Joan Collins. Aaron Spelling connaît déjà bien John Forsythe, car c'est lui qui était la voix de Charlie que les drôles de dames écoutaient au téléphone dans chaque épisode de la série. Avec lui à la tête du casting, l'ambiance sur le tournage change du tout au tout. Plus personne n'envoie la fumée de son cigare dans le visage des autres comédiens. À ses côtés, Linda Evans, une jeune actrice aux beaux cheveux blonds qui fut des années durant une des vedettes du western La Grande Vallée. Puis brièvement, aux côtés de James Franciscus, dans une série policière un peu trop sombre pour l'époque et un peu oubliée en France, Hunter. Linda Evans a remporté le casting devant d'autres vedettes pressenties comme Elizabeth Montgomery, la Samantha de Ma sorcière bien-aimée, et Angie Dickinson de Sergent Anderson. Linda Evans tient le rôle de Christelle Jennings, l'ancienne secrétaire de la Denver Carrington, qui, dans le pilote, se marie avec son patron, Blake. Soupçonnée d'arrivisme, Christelle reste cependant, des années durant, le compas moral de la série, la gentille femme qui ne voit pas le mal, pleine de compréhension, de compassion, qui aime profondément et sincèrement son mari, Blake. Blake, lui, est tout aussi sincère dans sa passion sans borne pour Christelle, même si c'est aussi un homme d'affaires qui ne recule devant rien. C'est ce couple inébranlable qui va être le ciment de Dynasty. Bon, inébranlable même si, pour être très très franc, dans un des tout premiers épisodes de la série, Blake viole sa femme. Par la suite, ce rebondissement qui est jugé tellement incohérent avec le personnage qu'il est consciencieusement oublié, on n'y fera plus jamais référence, un peu comme une sinistre erreur dans le développement des personnages. Par la suite d'ailleurs, jamais ni Blake ni Christelle ne commettront d'adultère. John Forsythe mettait son veto à ce genre de trame. Dans le clan des Carrington, il y a la fille, Fallon, la petite peste richissime qui a couché avec toute l'équipe de football de son père et qui entretient une relation avec son chauffeur, Michael Cullen. Parce que Fallon est avant tout une fille à papa. Elle voit d'un très mauvais œil qu'une étrangère, Crystal, lui ravisse l'amour de son père chéri. La scène où elle vient narguer Crystal en ayant croqué les personnages au sommet du gâteau de mariage est dans les deux séries, l'ancienne et la nouvelle. Et ça démontre bien le côté malicieusement pervers du personnage. C'est Pamela Sue Martin qui fut une des rescapées de l'aventure du Poséidon, et qui fut d'ailleurs Nancy Drew, une détective à la télévision, qui s'empara du rôle. Le fils Carrington, c'est Steven, la droiture, c'est le moralisateur de la série. Il s'accommode mal des affaires de son père. C'est le seul qui accueille chaleureusement Christelle dans la famille. Tous les autres, y compris le majordome Joseph Anders, lui montrent du mépris. Steven est torturé, non pas parce qu'il est homosexuel, mais parce que son père refuse de l'accepter en tant que tel. C'est Al Corley, un jeune acteur de théâtre, qui incarna Steven et devient une icône gay pour toute une génération. Opposé à Blake Carrington, il y a les Colbys, une autre famille richissime de Californie. Cecil Colby est à la tête de la Colby Co. et son neveu est Jeff Colby, un jeune et beau responsable qui en pince pour Fallon. C'est John James qui tient ce rôle. Pendant toute la première saison de Dynasty, les Shapiro génèrent une opposition entre les riches Carrington et les Blaisdell, les travailleurs pauvres qui travaillent sur un puits de pétrole. Matthew Blaisdell a été l'amant de Christelle par le passé, il est maintenant marié à Claudia et il a une fille, Lindsay. Les costumes de la série sont dus à Norman Miller, ils ont même été exposés ensuite au musée des arts et sciences de la télévision. Les bijoux étaient bien réels pour la plupart, loués à un grand bijoutier. Il y avait d'ailleurs toujours un garde sur le plateau quand ces scènes étaient tournées. Al Corley raconte d'ailleurs que, quand est venu le moment d'essayer des costumes, il ne voyait rien qui pouvait coller avec son personnage de rebelle, Steven. Ni une ni deux, Aaron Spelling, qu'il n'avait pas encore rencontré en personne, l'entraîne dans sa voiture pour faire du shopping avec lui à Beverly Hills. L'opulence de la série se devait d'être absolument parfaite, à tel point qu'une scène fut refilmée parce qu'on y voyait Blake offrir une Rolls-Royce à sa femme Christelle, bon ça va, mais lui donner les clés d'une Lincoln, alors là ça va pas du tout. Sérieusement, ils ont refait la scène. Malgré la débauche de luxe, les décors somptueux et les costumes splendides de la série, qui bénéficiaient d'un budget incroyable pour l'époque de plus $1 million par épisode, les audiences sont à la peine. Les scénarios sont plutôt tranquilles, un peu trop d'ailleurs. Les choses s'emballent un peu avant le final de la saison, quand Blake Carrington, dans un accès de colère, fait tomber l'amant de Steven, Ted Dinard, et le tue. Accusé de meurtre, Blake passe en jugement, accusé par son propre fils. Et c'est dans les toutes dernières secondes du season finale qu'arrive la scène qui va bouleverser toute la série et qui va en faire un méga hit international. On attend un témoin surprise au procès de Blake.
Votre honneur, notre témoin est arrivé.
La porte au fond de la salle d'audience s'ouvre.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ça veut dire?
Mon Dieu, c'est maman.
débarque donc l'ex-femme de Blake Carrington, qui a été chassée par lui il y a longtemps, pour infidélité. Dans cette scène, c'est un top modèle, Maggie Wickman, qui tient le rôle. Mais on la distingue à peine, elle est dissimulée derrière un immense chapeau et de très grosses lunettes noires. Et pour cause, le rôle n'est pas encore distribué. Pendant l'été 81, Sophia Loren et Elizabeth Taylor ont été approchées pour tenir le rôle. Mais Aaron Spelling avait décidé que ce serait une actrice britannique, Joan Collins, connue pour les superproductions Esther et le Roi et La Terre des Pharaons, pour ses films un peu sulfureux comme The Stud et The Beach, et ses apparitions dans Star Trek et Batman. Et à la rentrée 1981, dans le premier épisode de la saison 2, c'est Joan Collins, donc, qui s'assoit sur le banc des témoins, relève sa voilette et commence à proférer des horreurs sur son ex-mari, Blake Carrington. Pour cette seconde saison, c'est un nouveau couple de scénaristes qui va présider aux destinées de Dynasty, Hélène et Robert Pollack. Ils sont plus habitués aux feuilletons mélodramatiques et vont aligner toutes les situations les plus rocambolesques et outrancières possibles. Ils se débarrassent d'abord des pauvres, hein, donc de Matthew Blaisdell et de Lindsay. Ils font de Claudia Blaisdell un personnage avec des crises de démence qui, au fil de la série, va s'amouracher un peu de tous les gens qui lui témoignent de la sympathie. Accablé par Alexis, Blake sera condamné. Puis lors d'un accident, il va même perdre momentanément la vue. Mais il ne dira rien à sa femme quand il recouvrira l'usage de ses yeux, afin de voir si celle-ci, Christelle, profite de la situation. Fallon va se marier avec Jeff, elle va donner naissance à petit Blake qui sera enlevé lors du cliffhanger de fin de saison. Steven, lui, va se marier avec Sammy Jo, la nièce très délurée de Christelle. Ben oui, parce que dans cette version-là, Sammy Jo, c'est une fille et ça fait donc de son personnage un bisexuel. Très mécontent de cette nouvelle orientation, Al Corley abandonne la série et donc Steven décide de quitter Denver et sa famille. Corley va d'ailleurs poursuivre une carrière et profitera de sa célébrité grâce à Dynasty pour se lancer dans la chanson. Sa chanson, Square Room, est devenue un tube en 1984. Mais la vraie révélation, c'est bien sûr Alexis et sa rivalité avec Christelle pour le cœur de Blake, qui lui reste fidèle à sa femme. Perfide, manipulatrice, Alexis utilise tout le monde pour parvenir à ses fins, et en particulier les hommes. Dans une scène devenue mythique de la saison 2, elle gifle Cecil Colby alors que celui-ci a une crise cardiaque en plein milieu de débat amoureux avec elle et lui hurle « Non, non, ne meurs pas, ne me fais pas ça !» Bon, je le fais mal, mais enfin, vous imaginez Joan Collins en train de le faire. Hein. Elle va épouser à la hâte le mourant sur son lit d'hôpital afin d'hériter de sa fortune. Pire, elle va effrayer le cheval de Christelle qui va s'emballer et la traîner au sol sur des centaines de mètres. La pauvre Christelle, enceinte de Blake, va perdre son enfant et se voit condamnée à ne plus pouvoir en avoir. Toute cette outrance va payer. Dynasty fait un bond dans les audiences, se plaçant très vite dans le top 10. Clairement, c'est le côté irrévérencieux qui séduit, même si la série abandonne un peu tout lien avec un quelconque semblant de réalisme. Les tenues sont délirantes, Alexis porte des vestes avec des épaulettes tellement renforcées qu'elles arrivent même à dissimuler son visage. De son côté, la jeune et pétillante Heather Locklear fait des étincelles dans le rôle de Sammy Jo. Elle va bientôt décrocher un autre rôle, simultanément en Dynasty, dans Hooker, aux côtés de William Shatner. Une entrée série de Aaron Spelling, ça aide. Avec toutes ces femmes dans des rôles de garces ou de victimes, un rituel est mis en place. Chaque année, vers la fin de la saison, Christelle et Alexis se bagarrent comme des chiffonniers. La première fois, c'est la résidence où Alexis s'adonne à la peinture qui est ravagée, puis ce sera un salon de beauté et elles se jetteront l'une à l'autre de la poudre et de la crème. Elles vont même se battre dans la piscine. Les trames les plus délirantes vont continuer à se succéder. Claudia Blaisdell, en proie à la folie, jette ce qu'elle croit être le bébé de Fallon du haut d'un immeuble. Bon, en fait, c'est une poupée. Hein. Christelle va être accusée de bigamie parce que son ancien mari, Mark Jennings, un clone d'ailleurs de Tom Selleck, n'a jamais signé les papiers du divorce. Emporté dans des histoires des Carrington, Jennings va coucher à la fois avec la fille, Fallon, et avec la mère, Alexis. Steven, lui, il est de retour parce qu'il a survécu à l'explosion de la plateforme pétrolière où il travaillait. Mais il a dû subir d'importantes opérations de chirurgie esthétique. Ça permet à un nouvel acteur, Jack Coleman, de reprendre le rôle. C'est bien pratique. Vous trouvez que c'est n'importe quoi ? Les spectateurs adorent, et vous n'avez pas tout vu. Le sommet semble atteint avec le début d'une tendance récurrente dans la série, le retour d'enfants cachés, dont les Carrington en étaient arrivés à totalement oublier l'existence. Le premier d'entre eux, c'est Adam Carrington, kidnappé peu de temps après sa naissance. Devenu avocat, découvrant la vérité sur sa naissance, Adam débarque, fait preuve d'un cynisme et d'une absence absolue de scrupules, s'embrouille avec à peu près tout le monde, et dans une idée qui continue, moi, à me stupéfier depuis toutes ces années, va tenter de se débarrasser de Jeff Colby en faisant repeindre son bureau avec une peinture dont les vapeurs vont graduellement empoisonner le pauvre garçon. Mais où vont-ils chercher tout ça ? Par la suite, Alexis va voir débarquer Amanda, une fille secrète qu'elle a cachée à Blake et qui va séduire le mari d'Alexis. Et Blake, lui, va découvrir qu'il a une demi-sœur, la diva Black, Dominique Devereaux, une sorte de nouvelle version d'Alexis, avec qui elle se posera d'ailleurs régulièrement. C'est une des premières actrices noires à être la vedette de sa propre série télé et qui se double aussi d'une chanteuse, Diana Carroll, vedette de films comme Porgy and Bess ou Carmen Jones, qui va incarner avec panache et élégance le rôle de Dominique Devereaux. Les histoires abracadabrantesques se succèdent à grande vitesse. Alexis et Christelle sont enfermés dans une maison en feu, dans le cliffhanger de fin de saison 3. Steven va avoir un fils de Sammy Jo, mais en même temps, il va se lier avec son avocat. Il va se marier avec Claudia dans le but de conserver la garde de son fils, Danny. Alexis va enfin trouver quelqu'un qui est son égal, en la personne de Dex Dexter, mais elle est arrêtée et mise en prison, soupçonnée d'avoir tué Mark Jennings en le jetant du haut de son balcon. Rien que ça. Christelle va finalement, et contre toute attente, donner naissance à une petite fille, Christina. Steven va divorcer de Claudia. Vraiment, on s'y perd. Hein, parce que lui, Steven, il va se mettre avec Luke Fuller, son avocat. Claudia, elle, se jettera dans les bras d'Adam. Je vous ai dit qu'elle passait carrément dans les bras de tout le monde. Helmut Berger, l'acteur des damnés de Visconti et de Ludwig, le crépuscule des dieux, va jouer le rôle du playboy Peter de Vilbis, qui entraînera Fallon dans une vie de débauche. Trahi, la pauvre petite fille riche va avoir un accident de voiture, ou non, elle va plutôt mourir dans un accident d'avion aux côtés de Peter de Vilbis. Bon, on sait plus trop. Lors de la saison 5, en 1985, Spelling réussit un tour de force. Il engage pour une poignée d'épisodes Ally McGraw dans le rôle de la photographe Lady Ashley, qui tente de séduire Blake, et Rock Hudson, dans le rôle de Daniel Lewis, le père de Sammy Jo, qui tente de séduire son ancienne petite amie, Christelle. Quelques mois plus tard, l'annonce que Rock Hudson est atteint du sida va non seulement créer une véritable psychose sur le tournage, à une époque où l'on connaissait encore mal les modes de transmission de la maladie, mais va surtout réveiller la conscience de l'Amérique devant ce fléau qui frappe le monde entier. Dans ce tourbillon d'histoire, Dynasty devient un phénomène. La série est vue par plus de 100 millions de spectateurs dans plus de 70 pays. On crée des vêtements labellisés de la série, un parfum, Forever Crystal, des poupées, des livres biographiques. La série est tellement populaire que Henry Kissinger et l'ex-président Gerald Ford, avec sa femme Betty, acceptent d'apparaître dans leur propre rôle dans un des épisodes. Écoutez.
President, how are you? Very, very good, Blake. It's nice wonderful to see you. Crystal.
Miss Ford, nice
to see you.
Isn't this a magnificent ball?
We love it.
Ah, c'est carrément surréaliste. C'est Camille Marchetta, le scénariste de Dallas, c'est lui qui a créé le fameux cliffhanger qui a tué sur JR, qui reprend Dynasty et va la lancer dans une trame qui mènera la série sur la pente du déclin. Amanda Carrington va tomber amoureuse du prince Michael de Moldavie dans une histoire qui reflète la famille du prince régné et de la princesse Grace de Monaco. Alexis se donne au roi de Moldavie et organise le mariage royal de sa fille qui clôturera la saison. Peut-on envisager quelque chose de plus glamour que ça ?
Avec cette alliance, je t'épouse.
Je vous déclare maintenant mari et femme.
Tous les personnages sont réunis dans une chapelle de ce petit pays. Et là se produit un rebondissement qui est tout simplement du jamais vu à la télévision. Faisant exploser les frontières de la crédibilité, des rebelles terroristes opposant au royaume surgissent en plein mariage, mitraillette au poing.
C'est vous !
Christelle !
Ils vont tous nous tuer !
Et c'est un carnage. Les balles fauchent tous les personnages qui s'écroulent les uns sur les autres. La scène est filmée avec une rare violence, totalement inhabituelle dans ce genre de série. Instantanément, la scène est surnommée « le massacre de Moldavie » et l'épisode devient le plus commenté de toute la saison tant la surprise et le choc sont totales. La dernière image du massacre nous montre tous les personnages, apparemment sans vie, empilés les uns sur les autres, alors que retentissent les cloches du mariage royal. Ce coup d'éclat sera le pic créatif de la série, le summum du délire. Mais il va aussi marquer le début de la fin. En effet, à la rentrée 2005, la très attendue nouvelle saison est affectée par de très nombreux problèmes. Tout d'abord, la résolution de ce massacre de Moldavie déçoit les fans. Chaque personnage se relève, indemne, avec à peine une égratignure ou des cheveux décoiffés. Seuls deux personnages très mineurs sont tués par les terroristes. Bref, les terroristes étaient les plus mauvais tireurs de toute l'histoire de la télévision, hein. Là, la série a vraiment sauté le requin, comme on dit « jump the shark », une expression qui définit le point où l'on dépasse la tolérance du public pour des situations qui ne sont plus du tout crédibles. Même si ce premier épisode est le plus regardé de toute l'histoire de la série, avec 28 500 000 Américains rivés devant leur écran, il provoque chez eux une overdose de situations outrées. Ensuite, Joan Collins a disparu de la série. Personnage important, actrice devenue légendaire et qui finit par se confondre avec son rôle de garce, Joan Collins est en pleine renégociation de son contrat et demande une augmentation substantielle, qu'elle finit d'ailleurs par obtenir, 60 000 $ par épisode. Bon, sans pour autant que ça dépasse le salaire de John Forsythe, hein, parce qu'il y avait une clause contractuelle là-dessus. Ensuite, les scénaristes ressuscitent Fallon. Elle a donc survécu à cet accident d'avion, mais elle a perdu la mémoire. Elle est dorénavant incarnée par une nouvelle actrice, Emma Sams. Bon, ça fait déjà pas mal de choses à absorber en peu de temps, hein. Mais non, il y a encore pire. Les scénaristes imaginent une trame où Christelle se fait kidnapper et est retenue prisonnière par un cinéaste, Joël Abrigor, interprété par la vedette de cinéma George Hamilton. Il la séquestre dans son grenier et c'est Rita, un sosie parfait de Christelle, incarnée par la même actrice bien sûr, qui va prendre sa place auprès de Blake et de toute la famille. Bon, c'est déjà un peu tiré par les cheveux comme ça, mais surtout, cette histoire dure beaucoup trop longtemps. Le public n'en peut plus de voir la vraie Christelle, victime soumise et prisonnière de son ravisseur, semaine après semaine, dans son grenier. Enfin, dernier clou dans le cercueil de Dynasty, le lancement d'une série dérivée. Un Dynasty 2, les Colby. Ben oui, parce que si ça marche, on en fait une deuxième. Graduellement, chaque personnage de cette série dérivée est présenté dans les épisodes de la série d'origine. Et ça dilue encore plus les intrigues. La série elle-même, les Colbys, est lancée en fin d'année 2005 et compte dans sa distribution une pléiade de stars de cinéma. Charlton Heston en personne, Barbara Stanwyck, Katharina Ross, Ricardo Montalban, entre autres. En outre, la série récupère des personnages de Dynasty, comme Jeff Colby, bah, c'est normal parce qu'il rejoint sa famille à Los Angeles. Et Fallon aussi, que Miles Colby, alias Maxwell Caulfield, retrouve et ramène. Dominique Devereaux aussi, elle va passer carrément de Dynasty au Colby. Et dans les Colby apparaissent Blake, Adam et Steven en vedette invitée de certains épisodes. Malgré la présence de ces stars, malgré Stephanie Beecham qui joue la garce de service Sable Colby et une opulence encore plus insolente que dans Dynasty, ben le succès d'audience n'est vraiment pas au rendez-vous. 35e place dans les audiences, c'est encore pire pour la saison suivante. Voyant que les trames, pourtant moins outrancières que celles de la série originale, ne fonctionnent pas du tout, les scénaristes vont tenter le tout pour le tout. Ils clôturent la seconde saison des Colbys par une scène totalement hallucinante. En plein désert, Fallon voit apparaître une soucoupe volante. La soucoupe volante se pose devant elle et elle va l'emporter. Annulée, la série Les Colby ne résoudra jamais ce cliffhanger et Fallon réapparaîtra dans Dynasty avec une bien commode perte totale de mémoire. Eh bien, pour Dynasty, justement, l'audience est en chute libre. Et bien, ici, panique, leur série numéro 1 est en train de se casser la figure. Les spectateurs décrochent en masse. Pendant les vacances de Noël, les scénaristes font donc une opération de sauvetage pour tenter de relancer la série. Christelle sort enfin de son grenier, des trames sont conclues en vitesse grand V en quelques secondes, des personnages disparaissent et on fait surgir le frère de Blake Carrington, Ben Carrington, incarné par Christopher Cazenove, et la sœur d'Alexis, Caress. Voilà, elles ont toutes des prénoms insensés. Sable, Caress, enfin bon, interprété par Kate O'Mara. On freine sur l'outrance. Matthew Blevesdale revient d'entre les morts, du moins le pensait-on, pour tenter de reconquérir Christelle. Claudia, dans un moment de démence, met le feu à l'hôtel La Mirage, tenu par Fallon, et meurt engloutie par les flammes. Blake, ruiné par Ben et Alexis, est expulsé de sa maison, voit rouge, comme le spectateur d'ailleurs, qui perd un peu son calme, mais lui aussi, il se précipite pour étrangler Alexis.
Sois maudite, Alexis! Je vais te tuer!
Non!
Les saisons suivantes voient une accumulation d'histoires sans grande saveur, des allées et venues de nouveaux personnages sans grand relief non plus. La série baisse de plus en plus dans les audiences, Linda Evans finit par réduire sa participation à la série. Elle ne figure que dans 6 épisodes de la 9e saison, et John Collins n'est contractualisé que pour la moitié des épisodes. En mai 1989, le cliffhanger du dernier épisode montre Blake se faire tirer dessus par un policier corrompu et Alexis précipité dans le vide par-dessus la balustrade d'un grand hôtel. Sauf que cet épisode sera le dernier. La série est annulée et se conclut donc par des cliffhangers. 2 ans plus tard, un téléfilm en 2 parties, Dynasty, La Réunion, renoue avec les personnages, résout les cliffhangers, réunit la majorité des acteurs et actrices de la série, y compris Al Corley, qui reprend d'ailleurs son rôle de Stephen Carrington, et clôture la saga en octobre 1991. En tout, elle comporte 220 épisodes. Ben oui, 220. Vous voyez ce que vous avez loupé, hein? « Dynasty a marqué son époque, tout autant, et si ce n'est même plus, que Dallas. Par son aspect, tout est permis, ses excès, ses personnages souvent caricaturaux, mais aussi par ses aspects progressistes. Par le truchement de la fiction, Aaron Spelling tenait à faire passer des idées libérales, en avance pour son époque. Des femmes fortes et capables, sans vergogne, de diriger des multinationales, une relation interraciale entre le personnage de Garrett Boydon et Dominique Devereaux, elle-même sœur de Blake, et surtout le premier personnage régulier, ouvertement homosexuel dans une série télé et revendiqué en tant que tel. Pourtant, si les scénaristes ont fini par édulcorer un peu le personnage, la diffusion française de Dynasty, elle, l'a purement et simplement réduite à néant. À cette époque, non seulement les séries télé en France étaient mal considérées, mais en plus, elles devaient s'abstenir d'être provocantes, d'aborder le moindre sujet de société. Les scènes où on évoquait de vrais conflits, comme les guerres du Vietnam ou de Corée, étaient systématiquement coupées. Le doublage permettait de censurer des pans de dialogue tout entier. Avec Dynasty, c'est simple. On ne mentionne jamais le fait que Steven est homosexuel. Et l'apothéose est atteinte lors d'une scène cruciale de la saison 2, qui marque d'ailleurs le départ de Steven Carrington et de son premier interprète, Al Corley. Steven, n'en pouvant plus être rejeté pour ce qu'il est, organise une confrontation avec son père et tous les membres de la famille. Écoutez la scène, en version originale.
I wanted you to be a man.
I am a man. Just not your kind.
I'm a homosexual, Dad. I'm gay. And I want you to face it.
Maintenant, écoutez ce que ça donne déjà en VF.
Il faut que tu sois un homme, un vrai.
Je suis un homme, mais pas dans ton genre.
Je ne suis pas comme vous tous, papa. Il faut me croire. Et accepter la vérité.
Ouais, déjà c'est pas mal, hein. On enlève quand même les mots qui fâchent. Mais pire encore, voici l'aboutissement de cette scène qui est devenue mythique en version originale.
Steven is gay. Somebody say it.
Steven is gay.
Et maintenant, écoutez bien ce que Steven is gay est devenu dans la version française.
Steven est malade. Que quelqu'un le dise.
Steven est malade.
Ouais, vous avez bien entendu. Pour censurer totalement l'homosexualité du personnage, on préfère en faire un malade. Évidemment, à l'époque de sa diffusion, non seulement personne n'avait accès à la version originale et ne pouvait se rendre compte de cette honteuse trahison, mais en plus, personne ne portait le moindre intérêt à cette série qui pourtant, sous l'apparence de distraction, tentait de véhiculer des idées un peu progressistes. Voici d'ailleurs la réaction de Steven Carrington en personne. Jack Coleman, son deuxième interprète, était en 2012 au Festival de télévision de Monte Carlo. Nous avons pu évoquer avec lui cet aspect du personnage. Les choses ont considérablement évolué à la télévision. Mais quelqu'un m'a dit qu'en France, la traduction coupait pas mal de références à l'homosexualité de Steven. Les vieilles racines huguenotes, hein. Les catholiques français. En France, vous n'êtes pas gay, vous êtes malade. Malade.
Sick.
Steven is sick.
Yes.
Really?
Yeah.
Absolutely.
Oh my God! Wow.
You know, France. Mais la France a pourtant la réputation d'être tolérante.
Accepting.
Oh. Wow. Je peux pas croire ce que j'apprends aujourd'hui. Je pense que les Shapiro qui ont créé Dynasty, Aaron Spelling et ABC ont été très respectueux. Ils ont bien fait les choses. Et je pense que c'était très important en termes de visibilité d'un personnage gay que les hétéros pouvaient voir sans se sentir menacés par lui et que les homos pouvaient voir et se dire « Oh mon Dieu, je suis à la télévision, je ne suis plus invisible. » Et maintenant, je ne crois pas qu'il y ait la moindre série à la télé qui n'ait pas un de ces personnages qui soit gay. Modern Family, par exemple. Il n'y a pas seulement un personnage gay, il y a un couple gay. Et ils s'embrassent et ils élèvent un enfant. Je veux dire, on est à millions d'années de Steven est malade. Ouais, des millions d'années. La semaine prochaine, je vous entraînerai dans les coulisses d'une incroyable série policière qui traite des crimes sexuels. Tching, tching. Ouais, c'est ça, hein, carrément. New York Unité Spéciale. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.